Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine en ce mardi 31 juillet 2018. Aujourd'hui, c'est Jean-Charles Algan qui vous parle. Et notre équipe, notre grande équipe est composée de Jean-Sébastien Laliberté, toujours fidèle, qui ne fait pas que nous accompagner. Il est à la réalisation, au choix musical, à la technique. En fait, sans lui, nous ne serions pas là. Et peut-être que plus tard, nous aurons notre lecteur Yves Olivier. Ça, ce n'est pas encore confirmé. Qu'est-ce que je vais vous lire ce matin ? Eh bien, je vais être dans le mode slow, tout d'abord. Et puis, je vais vous expliquer un peu plus le mode slow encore. Et puis, peut-être que si j'ai le temps, je vous parlerai d'une traversée du désert du sel bolivien en 7 jours par un aveugle. Slow Travel, décrocher lentement. C'est Audrey Ruel-Manson de La Presse qui a signé cet article. Vous avez cette désagréable impression au retour de vos vacances qu'il vous faudrait une autre semaine de congé pour vous en remettre. Vous avez visité tout ce qu'il fallait, entre guillemets, sans prendre le temps de l'apprécier tellement votre horaire était réglé au quart de tour. Et si la prochaine fois vous misiez sur la qualité plutôt que sur la quantité en adoptant le mode slow travel. Aperçu de ce mouvement lent, à l'opposé du quotidien au rythme effréné que l'on devrait fuir à tout prix durant les congés. Visitez moins et mieux. Le terme universel le dit. Voyager selon le mode slow travel, c'est y aller lentement. Prendre son temps pour découvrir, rencontrer, relaxer. C'est s'imprégner des odeurs, des goûts, des coutumes, du mode de vie de ceux que l'on visite, plutôt que d'agir à titre de simple spectateur. Visitez moins, mais mieux. Le slow travel, c'est vraiment le fait d'expérimenter une destination dans son ensemble au lieu de simplement aller voir quelque chose. C'est de vivre des expériences authentiques, comme préparer ses repas avec des aliments locaux, voyager en autobus, visiter les marchés, prendre son temps dans les cafés, interagir avec la population, explique Maïté Levasseur, directrice adjointe du réseau de veille en tourisme à la chaire de tourisme Transat. Du slow food au slow travel. Le slow travel découle du mouvement slow food qui a vu le jour en Italie il y a plus de 30 ans. Pour la petite histoire, c'est un critique gastronomique italien qui a lancé ce mouvement citoyen en riposte à l'ouverture d'un restaurant McDonald's sur la Piazza di Spagna au centre de Rome en 1986. L'idée de Carlo Petrini est resté et est devenu un mouvement international destiné à protéger la gastronomie locale de l'invasion de la restauration rapide. Le slow travel est le pendant du slow food appliqué au voyage. Le slow travel est arrivé en 1999 en réaction à notre rythme de vie et de travail très rapide, à l'augmentation du stress, à notre façon de toujours faire du multitâche, expose Madame Levasseur. Vieillissement de la population et ralentissement du rythme. Le slow travel, pour moi, c'est de continuer ma vie, mais dans un autre environnement, lance Jessica Stacia Galland, adepte du mouvement. Originaire de Saint-Hyacinthe, Jessica, 27 ans, a notamment vécu 4 mois aux Bahamas, 1 an aux Pays-Bas, 1 an en Nouvelle-Zélande, et elle est maintenant installée pour une durée indéterminée à Curaçao. J'aime prendre le temps de découvrir un pays et me créer une nouvelle routine parmi les gens d'une autre culture. La meilleure façon de faire, c'est de me trouver un travail et de me sentir chez moi, explique celle qui a étudié la gestion hôtelière. Le profil de la jeune femme est particulier et ne correspond pas nécessairement au portrait caractéristique du slow traveler. En fait, il n'y a pas de portrait type, sauf peut-être des tendances sous-jacentes, le vieillissement de la population, le contexte économique, la quête du mieux-être, etc. C'est sûr que l'on peut remarquer un impact du vieillissement de la population, par exemple, soulève Madame Levasseur. Les baby-boomers et les personnes plus âgées cherchent des formules plus personnalisées, plus riches sur le plan culturel et qui leur offrent plus de temps devant eux. Ils peuvent se le permettre. La documentation sur le sujet n'est pas abondante et se constitue essentiellement de témoignages d'adeptes transmis par l'entremise de blogs personnels, de vidéos YouTube ou de récits dans des magazines spécialisés. Les analystes de réseaux de veille en tourisme observent toutefois un intérêt constant pour la pratique qui s'applique autant aux voyages de quelques jours qu'à ceux de quelques mois. On voit passer des choses autour de ce mouvement-là de façon régulière. Si c'est en augmentation, non, mais il y a quelque chose de bien vivant dans le mouvement qui demeure et qui continue, rapporte la directrice adjointe du réseau de veille. Des fois, c'est une façon de voyager qui se fait naturellement, d'autres fois, c'est plus clair que c'est l'objectif du voyage et les choix sont faits en fonction de ça. Donc, certains vont opter pour la location d'une maison, des déplacements à pied, en autobus, municipal ou à vélo, ou encore pour la découverte d'un cours d'eau en voilier ou en canot. Bref, l'idée du slow travel n'est pas de suivre un cadre établi, bien au contraire, c'est d'en sortir et de laisser beaucoup, entre parenthèses, beaucoup de place aux imprévus. Les avantages. 1. Économique. À voyager lentement, on visite moins d'endroits et moins d'attractions touristiques au prix parfois faramineux. Automatiquement, les dépenses pour les activités sont moindres et le budget ne s'emporte que mieux. L'autre avantage, c'est qu'en restant plus longtemps au même endroit, il est souvent possible de bénéficier d'un meilleur prix sur la location d'un hébergement, d'un scooter, d'un vélo, etc. Il devient aussi plus facile de cuisiner soi-même ses repas. Deuxième avantage, écologique. Quand on fait du slow travel, le temps passé dans les transports devient une partie du voyage plutôt que d'être simplement en un déplacement. Beaucoup d'adeptes vont opter pour des moyens de transport locaux comme l'autobus ou le vélo plutôt que de louer une voiture. Le train est privilégié pour les plus longues distances. Non seulement cette option se transforme-t-elle en expérience de découverte, mais elle est aussi plus écologique que l'avion. Troisième avantage, c'est reposant. Ce mode de voyage privilégie la lenteur par rapport à la rapidité, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a aucune place à l'instantanéité ou à l'improvisation. La différence, c'est que le voyageur y va à son rythme, selon son humeur et son niveau d'énergie du moment. Son expérience, en plus d'être plus originale et authentique, et en fin de compte, beaucoup plus reposante. L'association italienne CitaSlow existe depuis 1999, mais elle fait tranquillement son chemin à l'intérieur de l'Europe. Récemment, la ville de Lac-Mégantic est devenue la 4e ville canadienne et la 1ère ville québécoise à recevoir l'étiquette officielle CitaSlow. CitaSlow, on peut le prononcer aussi, laquelle atteste qu'il fait bon y vivre et la visiter à un rythme modéré. Explication avec Sonia Dumont, chargée des communications du bureau de reconstruction du centre-ville de Lac-Mégantic. Je continue avec mon slow mouvement. Alors, petit lexique du slow, paru dans la presse le 9 juillet. Oser la manière lente. Dans un monde qui encourage la productivité et la performance, la philosophie du slow et la prolifération du terme anglais se taille lentement une place de choix. On met le temps qui file au service de l'authenticité et au profit d'une meilleure qualité de vie. Petit lexique des différents mouvements. Donc, le slow food, dont je vous ai entretenu un petit peu dans l'article précédent, le slow food pionnier du mouvement slow, le slow food est né à Rome, comme je le disais, au milieu des années 80, en protestation contre l'ouverture d'un McDo sur la Piazza di Spagna. 30 ans plus tard, l'organisation devenue internationale combat toujours la restauration rapide et plus précisément la standardisation du goût et des cultures. Elle s'attaque aux puissances de l'industrie agroalimentaire et prône un retour vers l'identité locale, un mode de production respectueux de la faune et de l'environnement, ainsi qu'une redistribution équitable des profits. Ça, c'était pour le slow food. Il y a aussi le slow sex. Les ébats sexuels dureraient en moyenne moins de 20 minutes, incluant les préliminaires. Mais le slow sex arrive en force pour contrer cette gangrène relationnelle et briser cette façon de faire. L'orgasme n'est plus l'objectif ultime et la performance est mise de côté au profit du romantisme. On se concentre sur chaque caresse et on ne va nulle part ailleurs que là où l'on est, dans le moment présent. Puis on passe au slow parenting. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'idée derrière le slow parenting n'est pas de se désengager comme parent, mais bien de simplement alléger l'horaire familial, entre autres en diminuant le nombre d'activités organisées qu'on impose aux enfants. On remet en question le rythme de vie effréné, les obligations, les cours et les rendez-vous. On diminue la cadence. En épurant ainsi l'agenda familial, on laisse plus de place aux jeux libres et on aide les enfants à découvrir le monde par eux-mêmes, à leur vitesse. Puis vient le slow working. Travailler avec intelligence plutôt qu'avec excès. Conférer à son travail sa pleine valeur, lui donner de la signification. Voilà les principes du slow working. On s'attarde à ce qui nous passionne tout en accordant peu d'importance au salaire. On s'assure ainsi de ne pas devenir esclave de tâches qui nous minent. Le slow working est le pari que les gens heureux au travail peuvent devenir d'une redoutable efficacité. Il y a donc le slow tourisme dont je vous parlais, profiter pleinement de ses vacances, éviter les itinéraires réglés au quart de tour, on remet à l'agenda le goût d'en faire moins dans une journée et on laisse de la place à l'imprévu. Les balades s'organisent à pied ou à vélo, les nuits se réservent chez l'habitant, on s'intéresse au savoir-faire ancestral, on encourage la gastronomie locale et on bannit les souvenirs de voyages made in China. Parce que le slow tourisme va au-delà de la lenteur, il prône le respect de l'environnement et du développement durable. Il y a également le slow financement. Ramener les grands capitaux vers la collectivité et redonner le pouvoir financier aux citoyens qui entreprennent de cultiver leurs terres locales. Le modèle du slow financement, ou slow money, né aux États-Unis il y a près de 10 ans, consiste à financer des initiatives locales pour encourager la pratique d'une agriculture durable, productrice d'une nourriture de qualité. Plus près de chez nous, le projet Récolte vise à mettre sur pied le premier réseau du genre au Québec. Il y a également la Slow Déco. Pour contrer la surconsommation, le mouvement Slow Déco s'attarde à un décor épuré. Pensé selon les règles du développement durable, pour réduire son empreinte écologique ou privilégie la réutilisation, la transformation et le recyclage d'objets. À l'achat, on opte pour des meubles et des articles choisis qui sont porteurs de sens et qu'on conservera longtemps, de préférence créés par un artisan local. Les matières naturelles sont de mise, tout comme les plantes qu'on invite à l'intérieur en abondance. Œuvre marquante du mouvement slow, le succès du libraire Éloge de la lenteur a été publié en 2005 par le journaliste canadien Karl Honoré. L'auteur a montré au monde qu'à vouloir faire trop de choses rapidement, on passait à côté de sensations et d'expressions de vie riches. 13 ans plus tard, son bouquin est encore criant d'actualité.
J'ai manqué de veine, tu t'es poussé, là tu te ramènes le bout du nez. Tiens, v'là le bonheur, tout pomponné. Penses-tu qu'à ce tard, j'vais t'écouter. Sacré voleur, tu m'as floué. Là, tu reviens faire pardonner dans un creux de vague. L'amour zigzag, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu la peine. Tu me colles, en quel honneur t'as pas de parole. Maudit menteur, insiste pas, je pourrais te suivre encore une fois. C'est sans parfum, non, non, non. Méchant farceur, qu'est-ce qu'elle t'a dit? T'es de bonne humeur, moi je me méfie. Dans un creux de vague, l'amour zigzag, l'âme divague, le cœur prend l'eau. T'as eu la chienne, j'ai eu.
Pièce qui est parue en 1998. Elle a donc déjà 20 ans, Michel Rivard et Maudit Bonheur.
Il est arrivé, il est venu nous rejoindre. Yves Olivier est là pour vous parler d'un
article. Sur l'immigration.
Bonjour.
Bonjour, c'est sur la route des migrants, en fait, qui rêvent du Canada.
Ah.
Donc, au péril de leur vie, des milliers de personnes parcourent le continent américain à la recherche d'une vie meilleure. Et pour nombre d'entre eux, la terre d'accueil espérée n'est plus les États-Unis, mais le Canada. Ce texte est un texte de Martin Movila, d'Enquête. Son sourire enthousiaste dévoile bien sa personnalité. Rosette est optimiste et remplie de bonnes intentions. Mais cette femme qui travaillait pour une banque et comme trésorière d'une compagnie privée a dû tout laisser derrière. Elle a fui la violence de son Congo natal avec ses deux filles, Pauline et Marie, et son mari Godet, un réfugié politique qui craignait les autorités de son pays. Afin de raconter leur histoire, nous avons accepté de changer leur nom. « Ce n'est pas facile, dit Rosette en pleurant, mais je n'ai pas de choix, je ne peux pas rentrer. » Son rêve, c'est se rendre avec sa famille jusqu'au Canada. Si le rêve canadien a vu le jour, c'est que depuis quelque temps, les routes semblent se refermer pour les migrants en Europe et aux États-Unis. Mais pour y arriver, Rosette devra mettre sa vie et celle de ses deux enfants en péril. Il leur faudra traverser 11 pays en parcourant des routes de campagne, des jungles, des rivières, des mers et des montagnes. Plus de 20 000 km de risque pour atteindre un rêve qui parfois se transforme en cauchemar. Rosette lève les bras et les yeux vers le ciel. Cette chrétienne convaincue commence à prier. Là où tu mettras tes pieds, je serai avec toi, répète-t-elle à haute voix afin de calmer la peur de la route. C'est accompagné d'une Bible et de prières que Rosette fera face à sa destinée. Comme des milliers de migrants venus d'Afrique, d'Haïti et des pays voisins, Rosette et sa famille sont arrivés sur le continent américain au Brésil. Ici, c'est une oasis qui permet aux migrants de prendre une pause sur leur chemin pour récupérer leur énergie et continuer leur voyage, explique le père Paolo Paris, directeur de la maison du migrant de Sao Paulo. En nettoyant des toilettes tous les jours, Rosette a réuni un peu d'argent pour financer son long voyage vers le nord. Elle a accepté qu'Enquête la suive lors de certaines étapes de son voyage. En novembre 2017, la famille congolaise commence doucement son déplacement en autobus. Un périple de près de 3500 km en 3 jours les amène jusqu'à Rio Branco, une petite ville au nord du Brésil, près de la frontière avec le Pérou. Rosette raconte le moment où elle a eu son premier contact avec des passeurs sur la route. « Nous sommes tombés dans les mains de ces personnes », dit-elle un peu gênée. « Moi, j'avais peur de ce groupe parce que je croyais qu'ils étaient des bandits, alors que c'était le groupe qui devait nous aider. » Une fois en sol péruvien, ils embarquent à bord de la camionnette du passeur. Celui-ci se faufile rapidement dans les petites ruelles de la ville pour éviter les caméras et les autorités. Tout se déroulait bien jusqu'au moment où le groupe s'est fait arrêter avec un contrôle routier de la police. Ils nous ont fouillés, ils ont pris $700 de Godet et des autres. Moi, je croyais que les policiers aidaient, mais au contraire, raconte Rosette. Beaucoup de migrants n'ont pas de passeport ni de documents d'identité. Une grande partie du voyage se fait dans l'illégalité. Les frontières, les passeurs, les criminels et les contrôles des autorités sont des risques pour ces voyageurs. Finalement, après avoir convaincu les policiers, la famille de Rosette et les autres migrants ont récupéré presque tout leur argent et ils ont repris la route vers l'Équateur. Rosette ne veut pas perdre du temps sur la route. Elle passe en coup de vent par le territoire équatorien. Elle ne s'est arrêtée que 2 fois, au terminus de la capitale Quito et à la petite gare d'autobus de Tulcán, la ville frontière avec la Colombie. Son sourire reste intact. On dirait qu'elle garde le moral en pensant à son rêve d'être accueillie comme réfugiée au Canada. Assise par terre à la gare d'autobus de Tulcán, Rosette montre bien qu'elle n'a pas l'intention de reculer. « Je suis contente. L'important, c'est que nous avançons et que nous atteindrons notre objectif », assure-t-elle en attendant le transport vers la frontière avec la Colombie. Pour bien des migrants, l'Équateur n'est qu'un lieu de contact avec les passeurs qui facilitent leur déplacement vers le nord. Ces voyageurs génèrent beaucoup d'argent pour des réseaux organisés qui parfois ne les voient que comme une marchandise. Boîte et parfois poulet, c'est comme ça qu'on appelle les migrants qui sont en route à la recherche d'un meilleur avenir, explique José, un passeur équatorien rencontré par Enquête. À la frontière avec la Colombie, les passeurs abordent rapidement le groupe de Congolais. La négociation se fait vite et les passeurs les embarquent dans un taxi. Rosette et sa famille traversent la frontière clandestinement sans passer par les contrôles migratoires. Avec ses 2 filles et son mari, Rosette se rend jusqu'à la ville colombienne de Turbo, là où prend l'autoroute panaméricaine en Amérique du Sud. La famille congolaise est encore une fois obligée de recourir à des passeurs pour pouvoir avancer. Le Panama vient de fermer ses frontières à la migration irrégulière. Après un voyage mouvementé en bateau, il s'installe dans le petit village touristique de Capurgana, tout près de la frontière. La couleur bleue des eaux cristallines, les dauphins et une population accueillante en font un endroit exceptionnel. Dès son arrivée, Rosette et ses proches se mêlent avec des migrants de plusieurs pays qui veulent traverser vers le Panama, mais qui sont coincés ici. Ils sont non seulement congolais, mais aussi camerounais, ivoiriens, haïtiens, cubains, vénézuéliens, équatoriens, érythréens, somaliens, égyptiens et même népalais. Tout près de Capurgana se trouve le bouchon du Darien, une jungle inhospitalière à la végétation épaisse où les moustiques et les animaux sauvages sont rois. Située de part et d'autre de la frontière du Panama et de la Colombie, cette jungle est aussi un lieu de passage pour la drogue, la contrebande et le commerce illégal d'armes. Cet endroit est aussi surnommé la route de la mort, un défi presque surhumain. Des milliers de migrants sont passés par ici et nombre d'entre eux y ont laissé leur vie. On a perdu notre sœur qui était avec nous. Elle avait 35 ans quand elle est partie. Elle a glissé et puis elle s'est noyée. Elle est morte, raconte Aline, une autre migrante congolaise rencontrée par notre équipe. On a fui notre pays. C'est tout le temps la guerre par ici, par là. Ce sont vos dirigeants qui ont encouragé nos présidents africains à nous faire souffrir. Comme ça, on s'est dit, on va chez vous alors, dit Aline, spécifiant vouloir se rendre au Canada. Le Canada et son premier ministre devraient en faire plus pour éviter que des Africains recherchent refuge dans d'autres pays, selon Aline. J'aimerais qu'ils commencent à sanctionner les présidents sanguinaires de l'Afrique. Il ne faut pas les encourager, dit-elle. Les indigènes de la région assurent que parfois le bouchon du Darien mange les êtres humains. Il n'y a pas que la jungle qui représente un risque pour les migrants. Parfois, des gens armés nous interceptent pour nous voler, explique Hector, un passeur. Mais rien n'arrête Rosette. Elle a pris contact avec un passeur qui connaît bien les montagnes, les pentes raides, sinueuses, les fleuves et les meilleurs endroits pour se reposer. Malgré tout, la traversée est difficile. Le groupe s'est égaré pendant 7 jours et leur fille cadette a failli se noyer. Que ce soit sur la route de la mort ou dans des cimetières de différents pays, les cadavres des migrants non identifiés sont enterrés sans que leur famille soit au courant. Pas de papier, ça veut dire pas d'identité. C'est aussi ça, la route des migrants. L'anonymat, même après la mort. Plusieurs se retrouvent ici, dans ce cimetière, et personne ne pleure leur mort. La famille qui est loin croit qu'ils sont arrivés à destination, qu'ils ont réalisé leur rêve. Personne ne sait qu'ils sont ici, explique Evelio Cortez, un fossoyeur de turbo en Colombie. Ceux qui voyagent vers le Canada ont souvent fui leur pays ravagé par la guerre, la violence, les catastrophes naturelles ou la pauvreté. Ils préfèrent risquer leur vie sur la route plutôt que d'attendre la mort dans leur lieu de naissance. Il suffit de faire un tour sur les pages web de plusieurs médias d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine pour constater que l'image du Canada à l'étranger est très positive et attirante. Les paroles et les photos du premier ministre Justin Trudeau, qui a accueilli des réfugiés syriens, ont fait le tour de la planète. Suite de l'article sur les migrants et la route des migrants, un peu plus tard, nous allons passer à un autre texte de Jean-Charles et ensuite à la pause.
Eh bien, souper au vignoble Rivière du Chêne. Après le succès remporté l'an dernier, le vignoble Rivière du Chêne propose de nouveau cet été ses soirées Bistrot Tapas, l'occasion de découvrir les vins de ce vignoble situé à Saint-Eustache et ceux de sa nouvelle marque, la Cantina Valle d'Oca, que les visiteurs pourront goûter en primeur. En accord avec les jus, on trouve une carte de tapas, de planches et de plats d'inspiration bistrot mitonnés par le chef Benoît Brunet. Chef ceviche de pétoncle, arancini citronné ou encore crevettes grillées font partie du menu proposé. À noter, il est préférable de réserver en ligne avant de se déplacer. Nous vous revenons après une pause.
Vous écoutez les voix de service.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino.
vecino boliviano clandestino, mano negra ilegal.
On vient d'entendre Manu Chao et la pièce Clandestino.
Merci. Suite du texte des migrants en route vers le Canada. Oui, c'est ça, exactement. Toujours des belles petits toujours des beaux petits clins d'œil. Donc, après avoir traversé le bouchon du Darién, Rosette et sa famille arrivent au Costa Rica. Ils sont reçus par les autorités du pays qui les amènent dans un centre d'aide pour migrants à Peñas Blancas, près de la frontière avec le Nicaragua. En plus de se reposer, les migrants peuvent y recevoir de l'aide psychologique, de la nourriture, des services médicaux et de l'affection. Yolanda Sarabia est la traductrice du centre, mais son contact avec les migrants est plus profond. Certains l'appellent même « maman ». Viol, attaques armées, sœurs, frères et enfants qui se sont noyés font partie des histoires que ceux qui viennent en aide aux migrants entendent quotidiennement. Je ne peux pas m'habituer à écouter ces histoires. Chaque fois que j'en écoute une, je deviens fâché contre le monde, fâché contre la guerre. Je ne veux pas que ça continue comme ça, dit Yolanda Sarabia. Mais il y a aussi les histoires de rêves comme celui de Rosette, arrivée au Canada pour mettre fin aux souffrances qu'elle a vécues et à la persécution que subissait son mari. À chaque question sur son avenir, elle répond avec une tranquillité désarmante. Au Canada, je veux étudier pour exercer mes capacités intellectuelles. Pour poursuivre sa route, la famille congolaise doit contourner le Nicaragua qui considère que les migrants sont un problème de sécurité nationale. Ils engagent alors un autre passeur et prendront deux autres bateaux en Amérique centrale, sur le Pacifique et l'Atlantique, pour atteindre le territoire mexicain. La famille congolaise arrive au Mexique chargée d'espoir. Ils sentent que leur rêve canadien devient de plus en plus possible. On nous avait dit qu'on pouvait prendre un bateau du Mexique jusqu'au Canada, mais il semble que c'est trop risqué. Alors nous allons traverser les États-Unis pour aller au Canada, explique Rosette. Le Mexique a vu passer des millions de migrants vers les États-Unis. Tijuana, Matamoros et Nuevo Laredo sont quelques-unes des villes utilisées pour franchir la frontière. Malgré l'élection de Donald Trump et sa promesse d'élargir et de renforcer le mur à la frontière avec le Mexique, la traversée illégale avec des passeurs se poursuit, mais elle est devenue plus chère, de 5 000 $ à 13 000 $. La famille de Rosette ne peut pas se permettre de payer ce prix. Comme beaucoup d'autres migrants, elle doit essayer de traverser sans payer. Nous sommes ici devant le mur où les migrants ont improvisé un escalier avec des pneus pour traverser. C'est facile de sauter par ici, explique Jill Marie Halsin, une artiste et professeure universitaire américaine qui documente depuis une décennie les histoires des migrants qui passent par Tijuana. Afin de traverser, ils jettent le permis temporaire qui leur permet de traverser le territoire mexicain. Ils ne veulent pas que les autorités américaines les arrêtent avec ces documents. Ils risquent de se faire renvoyer au Mexique. On parle ici d'êtres humains dont la vie est brisée en 1 000 morceaux, dit la professeure Halsin. Tout près du but, à Tijuana, la famille de Rosette décide de ne pas tenter sa chance à cet endroit. C'est trop risqué là aussi. Souvent, les migrants qui se font arrêter en Californie sont obligés de porter un bracelet électronique. Cela empêcherait Rosette de continuer son chemin et de concrétiser son rêve d'arriver au Canada. Rosette part alors pour Nuevo Laredo, une ville mexicaine située face à la ville américaine de Laredo au Texas. On dit que cet endroit est plus accueillant pour les migrants puisqu'une grande partie de sa population est d'origine hispanique. Une fois arrivés aux États-Unis, Rosette et sa famille sont accueillis par les gens de la maison pour migrants de Laredo au Texas qui leur donnent de la nourriture et un toit temporaire pour dormir. La voix de Rosette dévoile son inquiétude. Son rêve canadien, même s'il est proche, devient par moments insaisissable. Pauline et Marie, les filles de Rosette, sont épuisées. Pauline vient de fêter son anniversaire sans savoir si dans un an elle sera au Canada ou au Congo. Grâce à de l'argent envoyé par leur famille, Rosette et les siens reprennent leur traversée de l'Amérique du Nord vers le Canada. À peu près 20 000 km de route, elle ne sait pas encore si elle arrivera à pied les terres sur le territoire canadien. Une pensée vient de la hanter. Si jamais elle arrive au Canada, pourra-t-elle y rester? Lui donnera-t-on le statut de réfugié? Le Canada ne peut pas accueillir tous les migrants qui arrivent aux frontières. Rosette le sait bien. L'histoire de cette Congolaise et de sa famille n'est pas finie. Loin de là, les prochaines semaines seront déterminantes. En attendant, Rosette nous parle d'espoir, de foi et d'optimisme. Elle ne peut pas s'empêcher d'imaginer une vie au Canada. « Je me vois au Canada à 80 ans, dit-elle en riant. Une vieille dame avec des petits-enfants et une famille élargie. Je ne sais pas comment je vais marcher, mais je serai au Canada dans le pays où dont je rêve. » C'est un test de Martin Movila, journaliste.
Et sur la note que j'avais envoyée au début de l'émission, je continue sur le rythme slow. C'est la confidence et confidence d'un voyageur, Faro, au Portugal, au rythme slow. Alexandre Fournier est comédien et commis à la SAQ. Comme la majorité des gens, il ne bénéficie que de quelques semaines de congés par année. Voyageur rarement pressé, il s'est particulièrement mis sur le mode slow lors d'une récente visite au Portugal, au grand bonheur de son âme, qui avait bien besoin d'être dorlotée. J'ai fait des voyages de type 4 villes en 2 semaines, tu mets les pieds quelque part et tu repars le lendemain. Je me souviens d'avoir visité Bruxelles en 2 jours et je ne peux pas dire que j'ai apprécié, tellement j'ai l'impression de ne pas avoir vu grand-chose. A l'inverse, je m'étais payé un voyage en Italie pour mes 30 ans. Avant de partir, j'avais suivi des cours d'italien pour jaser avec les gens de l'endroit une fois sur place. Je trouve que tu es plus facilement accueilli et intégré quand tu fais l'effort de converser avec eux dans leur langue. C'est comme si tu faisais plus facilement partie de l'endroit. Enfin, ce voyage-là, entre autres, m'a donné envie de ralentir le rythme à l'étranger. L'hiver dernier, je venais de traverser un énième temps des fêtes éreintant à la SAQ. C'est une période difficile, mine de rien, c'est physique, avec toutes les caisses à être déplacées et je travaillais des 12 heures par jour, 6 jours par semaine. D'autre part, ma carrière de comédien ne fonctionnait pas très bien. J'avais fait un court-métrage qui n'avait pas eu l'accueil que j'espérais et j'essuyais beaucoup de refus. L'hiver était gris, déprimant et disons que je n'étais pas au sommet de ma forme physique et mentale. J'ai décidé de partir en voyage, c'était en mars 2017. J'étais déjà allé au Portugal et j'avais envie d'y retourner. J'ai réservé seulement le début de mon voyage sans trop savoir ce que je ferais par la suite. Pour résumer, mon séjour a débuté par une drôle de note. J'avais une longue escale à Paris et une amie m'avait prêté sa chambre comme je n'arrive pas à fermer l'œil en avion. Son coloc faisait la fête et mon sommeil a écopé. J'arrive le lendemain à 8h au Portugal. Je n'avais pas dormi depuis 2 jours. J'étais sur le décalage horaire et en arrivant à mon auberge à Faro, on m'a annoncé que je n'aurais pas ma chambre avant 15h. Classique. J'ai laissé mon sac à l'auberge, j'ai regardé la carte de la petite ville où je me trouvais et j'ai commencé à errer à Faro. En 30 minutes, j'avais fait le tour. J'ai abouti sur un banc de parc, j'ai regardé autour de moi et j'ai été émerveillé par ce qui m'entourait. C'était superbe. En 1 heure, j'avais réalisé à quel point j'étais bien à cet endroit. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Je suis resté 6 jours à Faro. C'est ce dont j'avais besoin, un temps mort. Profiter de la vie, du beau temps. Mon seul but était de manger du poisson frais et de boire du vino verde. J'ai découvert des restaurants incroyables, c'est drôle, mais le premier restaurant où j'ai mangé était un restaurant slow food. Je me suis dit, c'est clair que je vais là. Un mercredi soir, j'ai passé 2h30 avec le chef à bouffer comme un roi et à jaser de n'importe quoi. De politique, d'art, d'économie. Ça m'a coûté 30€, j'ai mangé local et j'ai passé une soirée mémorable. Pour la petite histoire, le lendemain, je suis allé dans le seul restaurant étoilé Michelin de la ville. Honnêtement, ça m'a coûté pas mal plus cher et c'était beaucoup moins bon.
Parlons maintenant de musique, un festival, Tomorrowland, que j'aimerais bien un jour avoir la chance d'y participer. C'est de la musique électronique que j'apprécie particulièrement. Malheureusement, c'est un festival qui ne viendra pas à Tremblant malgré l'annonce d'un promoteur. Tomorrowland, ce mot fait rêver des milliers d'amateurs de musique électronique. L'un des plus gros festivals de DJ au monde se tient en ce moment même en Belgique. Pendant ce temps, un promoteur laisse croire qu'une franchise canadienne organisera un événement signé Tomorrowland au Mont-Tremblant, ce qui suscite un malaise dans la région. C'est un texte de Vincent Champagne. Le festival de musique électronique Tomorrowland en Belgique donne dans la démesure. Avec sa scène principale large de plus de 100 mètres, ses spectacles de cirque entre les performances des plus grands DJ de la planète, son aura magique et mystérieuse, ses feux d'artifice, ses 400 000 spectateurs, il attire des gens de partout au monde. Tomorrowland se tient sur 2 week-ends, dont celui qui commence aujourd'hui. Sur Facebook, un promoteur québécois, Vincent Christian Girard, utilise le nom un visuel et la réputation de Tomorrowland pour promouvoir un événement qu'il compte organiser au sommet du Mont-Tremblant en 2020. Or, le vrai festival Tomorrowland n'est pas partenaire de l'entreprise. De plus, ni la station Mont-Tremblant ni la ville de Mont-Tremblant ne disent avoir donné d'autorisation pour la tenue de l'événement. Au début mai, une page Facebook nommée Tomorrowland Canada est créée. Elle utilise une photo de l'iconique festival belge. Deux jours plus tard, Vincent Christian Girard, un acteur membre de l'Union des artistes, qui a notamment joué dans la télésérie 30 vies, annonce une grosse nouvelle. Trois jours plus tard, une nouvelle publication marquée du signe hashtag Breaking News enflamme les réseaux sociaux. L'auteur y confirme en anglais que Tomorrowland Canada sera présenté au sommet du Mont-Tremblant le 1er juillet 2020. Partagée à presque 1000 reprises, la publication qui a suscité près de 5000 commentaires est remarquée par les médias spécialisés du milieu de la musique électronique qui enquêtent sur le sujet. Rapidement, il confirme que plusieurs internautes soupçonnent ce n'est pas le vrai Tomorrowland qui viendra au Mont-Tremblant. Les commentaires négatifs se mettent alors à pleuvoir sur le promoteur. Fake, 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 se déchaîne un amateur imité par plusieurs autres. À ces propos, la page Tomorrowland Canada répond occasionnellement « It's real, c'est vrai ». Ou « Be kind, soyez gentil ». L'entreprise supposément responsable des communications de l'événement, King Communication, s'empresse d'émettre un communiqué. « Nous ne sommes pas affiliés à cet événement », écrit-elle. « Nous n'avons aucune information sur son déroulement ». Le véritable festival Tomorrowland a confirmé à Radio-Canada n'avoir aucun lien avec Tomorrowland Canada. Ce n'est pas une de nos organisations, elle ne nous est pas liée, affirme Debbie Wilmsen, relationniste pour Tomorrowland, qui ne commente pas davantage. Universal Music Group, l'un des plus importants producteurs de musique du monde, nie être associé à quelque événement que ce soit à Vincent Christian Girard. Je vous confirme que Universal Music Canada n'est pas engagé dans l'organisation de cet événement et que Universal Music Group n'a pas de lien avec cet individu, affirme Ashley Ballantyne, directrice des communications pour la branche canadienne de l'entreprise. Malgré tout, Vincent Christian Girard persiste et signe. Le 6 juillet, il publie une vidéo dans laquelle il présente l'endroit que pourraient utiliser les employés du Tomorrowland Canada, un événement qu'il nomme également Alive. Il invite par le fait même les gens à postuler pour un emploi. Les candidatures, dit-il, seront analysées par l'équipe de ressources humaines. Il encadre avec un papillon un relevé de compte de la Caisse des Jardins indiquant un solde de 0$ au nom de Canada Tomorrowland et publie la photo sur Facebook, malgré les informations sensibles qu'on y trouve comme une adresse. Car Vincent Christian Girard a enregistré le nom d'affaires Canada Tomorrowland auprès du registre des entreprises du Québec comme nom complémentaire à sa société à numéro. À la ville de Mont-Tremblant, les responsables sont bien embêtés face aux inévitables questions. Tous les promoteurs d'événements sur le territoire de la ville doivent faire des requêtes. Il n'y a personne qui fait un événement sans demander les autorisations, indique France Léonard, la directrice des communications de la ville. La station de Mont-Tremblant n'a pas reçu non plus de demande de la part de Tomorrowland Canada. Il est malheureux qu'un individu fasse faussement croire au public qu'un événement aura lieu à Tremblant, écrit Annick Marseille du service des communications de l'entreprise. L'équipe a signalé le tout au véritable Tomorrowland belge et demande aux internautes d'arrêter la propagation de cette nouvelle. Monsieur Girard a tous les droits d'organiser un festival de musique électronique s'il le souhaite. Il s'expose toutefois à des poursuites s'il le fait en utilisant une marque de commerce enregistrée. Car la marque Tomorrowland est bel et bien enregistrée auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle, à l'Office des brevets et des marques des États-Unis, ainsi qu'à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Quelqu'un qui utilise une marque enregistrée au Canada risque des poursuites en contrefaçon de marque. La personne risque de devoir payer des dommages et intérêts, mais tout cela dépend de plusieurs facteurs, explique Maître Camille Miconnet, avocate chez Brouillette Légale, qui œuvre en propriété intellectuelle sans se prononcer sur ce cas précis. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, de qui relève le registraire des entreprises, indique par ailleurs que la déclaration d'un nom d'entreprise identique à un autre est permise. Cependant, l'entreprise qui utilise déjà ce nom peut présenter une demande de recours administratif afin que les registraires des entreprises ordonnent au nouvel administrateur du nom de cesser de l'utiliser. Dans un tel cas, ce serait à l'entreprise étrangère de faire valoir ses droits devant un tribunal approprié, affirme la direction des communications du ministère. Radio-Canada a tenté de joindre Vincent Christian Girard pour obtenir ses commentaires. « Non merci », s'est-il contenté de répondre par messagerie. Il a également fait savoir par l'entremise de son ex-agent d'artiste qu'il n'accorderait pas d'entrevue. Au moment de rédiger ce reportage, la page Facebook de Tomorrowland Canada publiait « Good always win », »,« Le bien l'emporte toujours » et « Hold on, thank you », »,« En attente, merci ».
Un aveugle traverse le désert de sel bolivien en 7 jours de l'agence France Presse. Un enseignant français non-voyant a parcouru 140 km en 7 jours dans le Salar de Uyunin, le désert salin le plus grand au monde, en Bolivie, en s'aidant d'un GPS à assistance auditive, a annoncé lundi le gouvernement à La Paz. Alban Tessier, professeur non-voyant, a terminé lundi sa marche de 140 km dans le Salar de Uyuni pour démontrer au monde que les limitations physiques ne sont pas des obstacles pour accomplir des exploits, a fait savoir le ministère bolivien de la Culture. Alban Tessier, 41 ans, originaire de Nantes, a reçu le soutien médiatique des autorités boliviennes qui entendaient faire connaître le désert du Salar de Uyuni, une merveille naturelle et l'une des principales attractions touristiques du pays. L'enseignant non-voyant s'est guidé grâce à un GPS auditif et en tirant derrière un chariot sur roulette dans lequel il avait emporté le strict nécessaire, suivi par une équipe de soutien à distance. Le désert du Salar de Uyuni, une des plus grandes réserves au monde de lithium, selon La Paz, couvre une surface de 10 582 km² et est située à 3 650 mètres d'altitude dans le département andin de Potosi. La température y oscille entre moins 3 et 20 degrés et l'enseignant a dû y affronter les rigueurs du vent et du froid, y compris une averse de neige vendredi dernier qui a affecté ses équipements électroniques, dont le GPS, l'obligeant à recourir à des instruments à portée en double, selon le ministère bolivien. Avant son départ, le gouvernement bolivien avait annoncé qu'Alban Tessier était venu pour démontrer que des personnes avec des capacités différentes étaient capables de prouesses. L'enseignant souffre de rétinite pigmentaire, une maladie génétique dégénérative de l'œil qui évolue en cécité.
Retour vers l'alcool, clin d'œil à Jean-Charles, cette fois-ci.
Merci.
Donc, c'est l'héritage de l'inventeur du Whisky Canadian Club. Dans le comté d'Essex, dans le sud-ouest de l'Ontario, le Chrysler Canada Greenway s'étend sur près de 42 km de Old Castle, près de Windsor, à Leamington. Cette section fait partie du sentier transcanadien. Jusqu'à la fin des années 1980, ce chemin était une voie ferrée vieille d'un siècle. La ligne a été construite à compter de 1882 par Hiram Walker, l'inventeur du fameux Whisky Canadian Club. L'homme aux affaires florissantes a besoin à l'époque d'acheminer ses matières premières des fermes installées sur les rives du lac Erie à sa distillerie située dans Walkerville, sur la rivière Détroit. Originaire du Massachusetts, Hiram Walker s'installe à Détroit en 1838, où il devient propriétaire d'une épicerie et apprend à distiller son propre vinaigre de cidre. Rapidement, il se lance aussi dans la fabrication du whisky et connaît un succès immédiat. Craignant que la prohibition ne l'empêche de développer son commerce, il décide de s'installer à Windsor en 1856. Il achète des terres près de la rivière Détroit et fonde la distillerie Hiram Walker 2 ans plus tard. Son ascension est fulgurante. Il se démarque notamment de ses concurrents en apposant une étiquette sur ses bouteilles. À l'époque, les distilleries vendent leurs produits en vrac dans des tonneaux sans nom. Son histoire croise celle de l'un des criminels les plus célèbres des États-Unis, Al Capone. Le gangster se déplace alors dans la région de Windsor pour organiser l'achat et le transport du whisky du Canada aux États-Unis pendant la Prohibition. Déjà, le Canadian Club est vendu partout dans le monde. Hiram Walker est aussi un bâtisseur. Il fonde un petit village qui devient en quelques années une véritable cité autosuffisante, Walkerville. Il y loge l'ensemble de ses employés dans des maisons qu'il a fait construire. L'homme d'affaires y impose ses règles et y règne comme un roi. À la fin des années 1880, il se réinstalle à Détroit. Pour faciliter ses déplacements entre les deux pays, il met en place son propre service de traversier qu'il accorde à sa ligne de train, qui, en 1898, relie son usine de Walkerville à Kingsville. La distillerie Hiram Walker reste encore aujourd'hui la plus grande distillerie en Amérique du Nord.
Copenhague, ville du bonheur, où on peut pratiquer aussi le slow travel, à mon avis. D'une agréable douceur de vivre, Copenhague est la ville du hygge. Alors, ça s'écrit H-Y-G-G-E, mais a priori, Jean-Sébastien, qui connaît beaucoup de choses, m'a fait comprendre que ça se prononçait hygge. Ce concept célébrant le principe de goûter au petit bonheur de la vie. La capitale du Danemark est une destination idéale pour qui aime voyager de façon relaxe. À taille humaine, la ville se découvre agréablement bien sur un vélo, en toute sécurité, en flânant dans les parcs ou encore assis à la terrasse d'un café pour observer les gens vivre. Pour capter l'ambiance de la ville et respirer son air maritime, filez d'abord à Nyhavn. Alors ça, c'est sûr que les prononciations de ces mots danois me sont un peu difficiles. Désolé. Donc, pour filer d'abord à la Nyhavn, nouveau port en danois. Le canal situé au centre de Copenhague, où les bâtiments historiques colorés côtoient les restaurants chics. C'est l'endroit parfait pour prendre une photo de type carte postale. De là, on entame un tour de ville fluvial pour admirer l'ancienne et la nouvelle architecture de la ville sur les canaux de Christian Schau et de Frederik Schaums, pour dire bonjour à la petite sirène d'Andersen. En ville, le cyclisme est un véritable art de vivre. Il n'y a qu'à regarder le stationnement de vélos devant le Parlement pour s'en convaincre. Les gens du coin pédalent sans casque, souvent, avec douce moitié et enfants, assis dans de sympathiques remorques. Les 350 km de pistes cyclables sont complètement séparés de la rue, parfois même sur une voie surélevée, ce qui procure un sentiment de sécurité. De plus, la signalisation est très claire, les Danois sont très courtois et le terrain plat facilite l'expérience. Il est possible de louer un joli vélo dans la plupart des hôtels et de profiter des vélos électriques en libre service munis de GPS. Sans se presser, il fait bon se perdre dans les nombreux espaces verts que compte la ville. De l'autre côté du canal se trouve Christiana, à la fois quartier utopique, commune hippie et ville dans la ville, où vivent environ un millier de personnes avec son propre gouvernement et sa propre monnaie. Les vendeurs de cannabis qui ont élu domicile interdisent formellement la prise de photos et il ne faut pas prendre cette interdiction à la légère. Il s'agit d'un endroit surprenant, curieux et controversé, vestige des années Peace and Love, où l'on trouve de belles manifestations d'art urbain, des maisons colorées construites de briques et de brocs avec créativité, des artistes de rue et un certain esprit de liberté. Outre les plats traditionnels, la cuisine danoise met en valeur les produits locaux de saison. Et tout est toujours agréable, bien présenté. C'est frais, simple et délicieux. Impossible de passer par Copenhague sans goûter le plat national, le smørrebrød. Alors, désolé, le S-M-O-R-R-E-B-R-O, mais c'est des O barrés. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Avec un dé à la fin, au menu de quasiment tous les restaurants. Ce sandwich ouvert, proche cousin de la tartine française, est composé de pain de seigle noir et d'une garniture de saumon fumé, d'œufs et de rosbif. Deux adresses coup de cœur, donc on nous en fait mention. Quartier branché, Østerbro, avec ses galeries d'art et ses petites boutiques, ses rues résidentielles coquettes, ses tables à pique-nique sur les terrasses et ses aires de jeux pour enfants, Østerbro et le quartier cossu de la capitale. C'est ce qui met un terme à notre émission de ce jour. Merci d'avoir été à l'écoute et bien sûr merci aux collaborateurs. Donc Yves Olivier qui est venu se joindre à nous et Jean-Sébastien La Liberté évidemment. C'était Jean-Charles Algan au micro. On se retrouve la semaine prochaine, nous l'espérons. Au plaisir.
Merci.